Exégèse.
Si vous pouviez revenir dans le temps et visiter un endroit culte lié à la musique, vous iriez où ? Est-ce que vous iriez au Sun Studio, le premier endroit où a enregistré Elvis ? Vous iriez à Abbey Road ? Ou tout ça c'est trop classique pour vous ? Parce que j'ai quelque chose à vous proposer. Un atelier d'artiste dans le New York des années 60, à une époque où les États-Unis faisaient encore rêver le monde. C'est donc déjà bien derrière nous. C'est un lieu un peu oublié des mémoires en France, mais où se sont passés tout un tas de superstars new-yorkaises de la décennie rock et hippie. On y croisait Mick Jagger, le Velvet Underground, Dali, il paraît même que De Niro y passait. Ce lieu, c'est la Factory, un atelier de création fondé par Andy Warhol en 64. Au chemin entre la musique, la photo, les installations, le lieu hors norme a déménagé en 68 au 6e étage d'un immeuble new-yorkais, où logeait également, comme par hasard, la permanence du Parti communiste de New York, comme quoi les grands esprits. L'idée pour Warhol, c'était de réunir plein de gens, connus ou non, et d'en faire ce qu'il appelait des superstars. Vous connaissez peut-être cette citation d'Andy sur la célébrité. C'est lui qui avait prophétisé dans les années 60 qu'un jour tout le monde aurait son heure de gloire, son quart d'heure de gloire, comme s'il avait prédit à l'avance les chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux et la télé-réalité. Et l'idée des superstars, c'était justement ça, c'était simple. Pour Andy, pour être une star, il suffisait de le dire. Et à la Factory, tout le monde était une star. Tout le monde pouvait être qui il voulait. Et dans cette atmosphère créative, où on mêlait des influences rock, pop art, littéraire et même BDSM, il y avait un type qu'on a vu se poser plusieurs fois sur le canapé fameux de l'atelier. Un type qui, à l'époque, fait partie du groupe le plus célèbre de l'underground new-yorkais et même de l'underground occidental. Ce type, c'est Lou Reed, à l'époque membre du Velvet Underground. Et plus que de la Factory, c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. On va en parler à travers un disque étonnant nommé The Unreal Story of Lou Reed. Bienvenue donc dans Exégèse. Aujourd'hui, je vous fais entrer dans la Factory et dans la vie de Lou Reed.
Il est 20h. On est à New York en 1966 et je crois que je vais vomir. La lumière des flashs des photographes, les vidéos projetées partout sur les murs, ces mêmes murs dont certains recouverts d'aluminium reflètent l'éclairage et renforcent l'éblouissement. Les bijoux, les strass, les paillettes, les verres qui teintent, les dents qui s'illuminent, les pupilles qui se dilatent, les cœurs qu'on peut presque entendre battre de plus en plus fort à l'unisson. C'est peut-être cette harmonie, cette alchimie que veut créer Andy en nous plaçant là tous ensemble. Des fois, il me rappelle les vieilles voisines de mon quartier quand elles préparaient méticuleusement leur amain. Chaque ingrédient, chaque épice, la chaleur, le temps de cuisson, tout avait de l'importance. C'est ce que je ressens à chaque fois que je viens à la Factory, comme si on était tous des ingrédients, soigneusement choisis par Andy, pour créer son ragoût à lui. Ce soir, c'est la première fois qu'on joue. Enfin, pour de vrai quoi. Et putain, commencer par un geek devant un tel public, ça vous fout les tripes à l'air. C'est ce soir que Lewis meurt. Ce soir que Lou devient. Baby vient me saluer. Elle est avec Sugar. Et toutes les deux sont éblouissantes. On n'en voit nulle part ailleurs des filles comme ça. Des filles qui viennent des quatre coins du pays. Arrivées ici en stop ou en bus. Elles se sont donné naissance en chemin. Quittant le Kansas en tant que Joe. Arrivant à la Factory en tant que Dolly. Sourcils épilés, jambes rasées, lui est devenu elle. J'entends à peine ce qu'elles me disent au milieu du bourdonnement de la foule et de la musique qui semble rebondir sur les corps. C'est bizarre parfois la vie. C'est peut-être ça qu'on appelle le destin. J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que j'étais fait pour être ici ce soir, parmi ces gens, dans cette ville, à cette époque. Tout en moi était à l'étroit avant, et n'attendait qu'à éclore ici, maintenant. C'est vrai que pour un petit garçon juif de Brooklyn, je paraissais plus destiné à devenir comptable comme mon père ou avocat comme mon oncle Abel. Tout, sauf Lou, du Velvet Underground. Mais il y a de tout à la Factory. Des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. Et tout entre les deux. Des riches, des pauvres, des junkies, des fous. On est tous là. Et plus personne n'existe réellement. On est comme un magma, une énergie, un monde nouveau où l'individu disparaît derrière le collectif. Andy dit qu'un jour, tout le monde aura son quart d'heure de célébrité. Je sais pas si c'est vrai. Je sais même pas si c'est ce qu'on souhaite. J'ai l'impression que si on est ici, c'est surtout pour disparaître. Par disparaître comme un truc négatif et définitif. Plutôt se délester de l'ego, oublier le passé, la famille, les problèmes et les angoisses et pouvoir se réinventer. Ici, on n'est pas Jack, Annie ou Lewis. Ici, on est ultraviolet, Candy Darling, Hollywood Lawn. Ici, on façonne celui qu'on veut être, homme ou femme, humain ou plus que ça. Moi, je me suis toujours senti trop à l'étroit dans le costume de Lewis Alan Reed. Devenir loup du Velvet Underground, c'est pour ça que je suis né et c'est ce soir la délivrance. Sterling, Joe et Mo me font un signe. C'est l'heure. Je sens l'adrénaline monter. Mon pouce accélère, je peux presque l'entendre battre contre mes tympans comme un...
C'était New York 1966, issu de notre album d'aujourd'hui, The Unreal Story of Lou Reed. Bienvenue donc dans Exégèse. Cette semaine, je vous emmène dans la vie non seulement de la Factory, cet atelier de création new-yorkais d'Andy Warhol, mais aussi et surtout dans la vie de Lou Reed, célèbre frontman du non moins célèbre Velvet Underground. Cet album, dont je vous fais l'exégèse ici pour vous, c'est l'œuvre combinée d'un chanteur et poète, Fred Nefché, la voix que vous entendez, sur des mélodies composées par Simon Henner sous un projet intitulé French 79, son année de naissance. Ce qui est trop cool avec cet album, c'est de retracer la vie et l'œuvre de Lou Reed, donc, mais en musique et de façon sélective. On est bien loin des biographes et les paroles font ce que la littérature s'autorise toujours à faire, inventer dans les interstices de l'histoire, combler les trous, imaginer ce qui a pu se passer. Et c'est aussi imaginer ce qui a pu se penser, se ressentir à la Factory ou dans la tête de Lou Reed lors du premier concert du Velvet en 66 dans l'atelier. Et c'est toujours marrant d'essayer de s'imaginer ce qu'un personnage célèbre a pu penser, dire, faire à un moment où l'histoire n'a pas gardé de traces exactes. Et là, il faut vraiment vous imaginer l'ambiance de la Factory. Le soir, la moiteur des soirées, le jour, les anecdotes racontent qu'on y travaillait en vérité sans cesse. Parce qu'entre photos, créations plastiques et visites d'artistes qui deviendront légendaires, il devait toujours se passer un truc à la Factory. En tout cas, c'est ce que racontent les anecdotes autour du lieu, qui tournent évidemment à la légende. En pratique, comme souvent quand on parle d'un lieu de création ou de résidence d'artistes qui sont devenus célèbres, bah, la légende se mélange, voire parasite pleinement l'histoire véritable. Mais c'est pour notre affaire, ici. Notons juste que cet album nous propose une expérience unique, plongée dans la tête de Lou Reed en 66 lors du concert du Velvet Underground à la Factory. Mais que vous soyez fan absolu de Lou Reed ou non, faut pas vous en faire. L'album va bien plus loin que ça et c'est aussi pour ça que ça me semblait important d'en parler. On va sortir d'ailleurs de la Factory pour aller se poser une question plus large. Qu'est-ce que ça veut dire d'être fan de quelqu'un? Qu'est-ce que ça implique d'apprécier l'œuvre d'un ou d'une artiste? Et est-ce qu'on se limite, dans ce cas-là, à de l'esthétique? Ou est-ce que ça va pas plus loin, bien plus loin? Première piste de réponse avec le premier morceau de l'album, La responsabilité des rêves.
Je n'aime pas les indifférents. J'ai du mal avec ceux qui ont l'air de s'en foutre. Les « fuis-moi, je te suis », les silences complaisants, les rockers que rien n'atteint, le mystère qui s'esthétise. Je n'aime pas les satisfaits, les gens qui semblent n'avoir besoin de rien ni de personne, ceux qui se gardent, se refusent. Et vous le font savoir. A priori, je ne suis pas le public le plus approprié pour Lou Reed. Et pourtant, il me touche. Il me touche dans l'écart qu'il y a entre l'image qu'on se fait de lui au loin et ce qu'il semble être de près. Il me touche dans la distance qu'on découvre entre lui et son propre cliché. À mieux y regarder, il me touche de n'être précisément pas un indifférent, mais quelqu'un qui raconte des histoires, quelqu'un qui fait attention aux histoires qu'il raconte. Il me touche quand il raconte l'histoire de Delmore Schwartz. Qui est Delmore Schwartz? Pour le dire vite, son mentor. Homme né en 1913 dans une famille juive roumaine et aisée, Delmore commence par obtenir un diplôme à l'université de New York avant de poursuivre dans les années 30 un cursus à Harvard, dans le département de philosophie dirigé par Whitehead, puis par écrire une nouvelle dans la Partisan Review inspirée du divorce de ses parents qui sera cité par T.S. Eliot, William Carlos Williams ou Ezra Pound, admiré par Nabokov. Une nouvelle qui devra, pour le dire autrement, devenir un classique. Le classique d'un homme d'à peine 25 ans. Un classique aussi pour Lou Reed, qui découvrira ce texte une dizaine d'années après sa parution, en prenant des cours de creative writings. Ce qu'il faut comprendre, Lou Reed, dont tant de gens sont fans, était lui-même fan de Delmore, fan absolu son temps, jusqu'à la mort. C'est émouvant de surprendre les gens célèbres admirer d'autres gens moins célèbres. Émouvant de réaliser que les figures que tout le monde écoute parfois se taisent pour elles-mêmes écouter d'autres personnes. J'ai commencé à aimer Lou Reed quand j'ai découvert l'humilité de Lou Reed. Une humilité de lecture, une déférence de fan. Lou écrivait en 2012 une lettre posthume à Delmore qui se conclut par un mot simple. Trop simple sans doute. Si simple qu'il est souvent raillé, Lou conclut sa lettre à Delmore par le mot « rêve ». Et alors qu'il conclut, je me demande si admirer quelqu'un, ce n'est pas au fond devenir responsable de ses rêves. S'engager à les poursuivre, s'engager à les défendre, en défendre le sérieux, à en prendre la suite, à combattre l'indifférence. J'imagine en souterrain comme un relais d'attention que se passent mystérieusement les humains et me dit qu'admirer quelqu'un, c'est prendre le risque de s'emparer de ce relais. Avoir charge d'âme d'un rêve partagé, Lou, à sa manière, a pris la suite de Delmore. Qui aujourd'hui prendra la suite de Lou?
La responsabilité des rêves, c'est le premier morceau de The Unreal Story of Lou Reed, ce projet sublime de Fred Nefché et de French 79 qui nous plonge dans la tête du chanteur du Velvet Underground. Vous êtes de retour dans Exégèse et on va repartir de la question que je vous posais il y a quelques minutes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être fan d'un artiste? Qu'est-ce que c'est, au fond, d'admirer le travail de quelqu'un? N'importe qui aime un artiste sait très bien que ça peut vouloir dire bien plus que juste écouter sa musique. Être fan, ça peut vouloir dire suivre la personne sur les réseaux, connaître sa vie, s'intéresser à sa biographie, à ses interviews et à ce que la personne dit, pense en dehors de l'art. Et Fred Nefché, qu'on vient d'entendre, a raison. Admirer quelqu'un, c'est prendre un peu de sa personnalité. C'est s'approprier ses goûts, ses choix, ses positionnements. C'est dire qu'on aime telle ou telle chose, qu'on porte tel ou tel vêtement, qu'on a choisi tel ou tel goût, parce qu'on a vu notre artiste préférer le faire ou le dire. Admirer quelqu'un, c'est plus qu'une relation esthétique. C'est une relation qui devient intime, mais d'un côté seulement. Mais c'est trouver dans l'œuvre de quelqu'un un plaisir, une jouissance, un réconfort. Et ça, les fans de Kanye West ou de Céline le savent bien, il y a des idoles embarrassantes. Il y a des idoles dont on parle à demi-mot, uniquement entre initiés, parce qu'on sait ou on a peur d'être mal compris sinon. Et puis, il y a des artistes dont on n'a pas forcément envie de parler. Et même pas parce qu'ils sont problématiques ou clivants, non. Juste parce qu'ils sont à nous. Parce qu'on a construit avec eux une relation parasociale si unique, si particulière, que la dévoiler au monde, c'est presque dévoiler une partie de soi, c'est se mettre à nu. Parce que oui, à certains stades, admirer quelqu'un, c'est prendre la responsabilité de ses rêves. S'engager à en transmettre la vision, à la poursuivre. Être fan de Lou Reed, c'est parfois plus que de juste apprécier le morceau Perfect Days. C'est trouver en Lou Reed un foyer de recueillement, d'apaisement, un guide, un refuge, un défouloir, ou tout ce qu'on voudra. C'est penser que Lou Reed est une manière à part entière de vivre la vie. Une manière unique, singulière, qu'il faut entretenir, chérir et transmettre. C'est ça, la responsabilité des rêves. C'est croire en quelqu'un jusqu'à vouloir endosser la responsabilité de ses rêves. Assurer le rôle de transmission et être, à son tour, le relais de ses rêves pluriséculaires. On peut aimer Blaise Cendrars et transmettre à travers lui son amour d'Apollinaire et de Rimbaud, et à travers Rimbaud, transmettre son adoration de Baudelaire et de Racine, etc. C'est aussi ça, admirer quelqu'un. C'est poursuivre la transmission symbolique que se partagent les humains depuis des siècles et des siècles. Et justement, aimer Lou Reed, c'est parler de ce qui s'est passé après le Velvet, après Andy Warhol, après La Factory, après 66. C'est parler par exemple de Metal Machine Music, c'est parler de la fin de Lou Reed, c'est parler de tout ce qui compte dans une œuvre. Alors, il y eut Lou Reed.
Alors il eut Lou Reed et sa ville préférée, New York, et toute cette poésie sortie de son cerveau défoncé aux électrochocs. Des milliers de neurones dévorant tout sur leur passage, et lui qui tombe à pic, lui en forme de rockstar, le visage tourmenté, bien sûr, et triste, bien sûr, et ses grands yeux comme ceux des têtes de mort taguées sur les murs des chiottes des bars glauques. New York, New York, New York. La messe est dite, non, pas encore. Lou Reed envoie tout balader avec MMM. MMM? Non, rien de réjouissant, de pétillant, plus rien de pop. M comme métal, M comme machine, M comme musique. Ça fait métal, machine, musique. Il était temps qu'on entende quelque chose de monstrueux. Il était temps qu'on entende quelque chose d'impossible. Il était temps qu'un bruit encore plus long qu'une phrase sèche et brutale nous fasse du mal. Voilà, il était temps de faire un sacrifice pour que le rock devienne une religion ratée avec l'idole Lou Reed en totem angoissant. Feedback, distorsion. J'imite le son de sa fin d'air devenu folle alliée. Je ne blague pas. Les New Yorkais sont des gens très sérieux quand il s'agit de poésie, surtout Lou Reed qui est quand même, de toutes les fleurs du mal, la plus vénéneuse. La preuve. Shiny, shiny, shiny boot of leather. White splash girl, shine in the dark. Comes in bells, your servant. Don't forsake him. Strike, dear mistress. And Curly's heart. Ah, d'accord, c'est beau, c'est même très beau, mais c'est quand même plus puissant et plus avant-gardiste. Feedback, distorsion, Les onomatopées? Certainement pas. Lou Reed dit qu'il connaît toutes les fréquences de Metal Machine Music. Lou Reed dit que dans Metal Machine Music, c'est juste des guitares, des guitares, des guitares. Lou Reed dit que quiconque est capable d'écouter Metal Machine Music jusqu'à la quatrième plage est encore plus malade que lui. Lou Reed dit que Metal Machine Music est un album qui n'est pas fait pour être écouté parce qu'il n'a pas voulu s'enfermer dans une rythmique ou une boucle ou une tonalité. 64 minutes d'épilepsie, pas une de plus. Ok, c'est pas de la musique, mais ce n'est pas de l'art non plus. Lou Reed envoie tout balader. Il ne va pas très bien. C'est du suicide. Non, il est punk. Quoi ? Punk. P-U-N-K. Un punk est quelqu'un qui détruit parce qu'il est toujours en colère. Même le docteur Bettelheim, qui soignait à l'époque des enfants autistes qui saccageaient tout dans son institut de Chicago, dans un tunnel d'obscure souffrance, n'aurait jamais imaginé ça. Tenez, en parlant d'enfants, saviez-vous qu'en 1973, soit 2 ans avant Metal Machine Music, Lou Reed et son producteur ont fait enfermer 2 bambins dans un studio pour enregistrer leurs pleurs pour une chanson de l'album Berlin qui était en préparation. Votre mère est partie, vous ne la reverrez plus jamais. Si ça, c'est pas punk. Strict, stéréo, separation, dit-il. Si ça, c'est pas punk. Strict, stéréo, separation, no painting, dit-il. Si ça, c'est pas punk. Strict, stéréo, separation, no painting, no phasing, dit-il. Si ça, c'est pas punk. Strict, stéréo, separation, no painting, no phasing, no, dit-il. Si ça, c'est pas punk. Des spots blancs braqués sur lui contre un immense fond noir, puis plus rien. C'était une bête de scène, un animal furieux, qui n'avait pas de haine. On voyait dans ses yeux des arcs électriques et des lumières brûlantes. Il chanta la chronique de nos vies très violentes. Il chanta sans chanter tous ces mini-suicides dont on n'ose pas parler. Il s'appelait Lou Reed.
Alors voilà, il y a eu Lou Reed, et au travers de lui, toute une nouvelle façon de voir la musique et l'art. Des milieux de l'avant-garde new-yorkaise à l'entièreté de l'arbre généalogique du rock, Lou Reed a planté çà et là des graines esthétiques, qui sans doute fleurissent encore. Des premiers concerts du Velvet au milieu des années 60 à Perfect Days, le film de 2023 de Wim Wenders, où on entendait le morceau éponyme, Lou Reed reste un témoin, un relais esthétique, que l'on se passe de main en main depuis près de 60 ans. Et avec lui, la responsabilité de ses rêves. C'était donc l'exégèse de The Unreal Story of Lou Reed, de Fred Nefché et French 79. Pour ceux ayant aimé cette leçon esthétique, on se retrouve dans 2 semaines, même endroit, même heure. Pour ceux au contraire, ne l'ayant pas trouvé à leur goût, pas d'inquiétude, je me rattraperai dans 2 semaines, même endroit, même heure. Merci à tous, c'était Romain Maillot.
Juste un jour parfait.
Exégèse.
À boire de la sangria au parc. Puis plus tard, quand la nuit tombe, rentrer chez nous. animaux au zoo. Puis plus tard, un film aussi, et rentrer chez nous. Oh, un jour si parfait. Je suis heureux de le passer avec toi. Oh, un jour tellement parfait. Dans nos balades le week-end, tellement de rigolades.